Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va faire trois causeries à la suite, donc chaque lundi, 19h. Voilà, alors, ça s'insère dans un thème que je développe depuis longtemps à l'Unipop, c'est justement le rapport entre l'esprit et le cerveau. Et aujourd'hui, cette année, c'est la suite de beaucoup de conférences sur la pharmacologie, la psychopharmacologie même, c'est-à-dire la discipline qui est rattachée plus ou moins à la médecine et qui étudie l'effet des drogues sur le cerveau. Alors, drogue, c'est au sens large, hein, c'est pas péjoratif pour moi, c'est comme ce qu'auparavant on allait chercher chez le droguiste. Pas plus. Hein. Alors, bon, pendant longtemps, ça s'est appelé les apothiques, les apothicaires, et puis après, c'était plutôt séparation, droguiste d'un côté, pharmacie d'autre part. Et puis maintenant, depuis pas mal de temps, il y a une troisième catégorie, c'est les dealers. Voilà. Alors là, c'est bien entendu des mafias. Alors là, bien sûr, l'État n'y est pas pour rien. Il faut bien toujours se poser la question d'où le pouvoir, du reste, hein, éventuellement, les contestations, parce que c'est des substances qui peuvent éventuellement être plus ou moins dangereuses, et laisser ça aux mains des mafieux, je suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Voilà, alors, bien sûr, comme il y a du danger, pendant longtemps, il y a eu de la prohibition. Et on s'est aperçu que la prohibition ne servait à rien. Même au contraire, si ce n'est de renforcer l'emprise des mafias. Voilà, alors, comme ce soir, on va parler plutôt de l'alcool. Là, c'est aux États-Unis où ça a été probant que la prohibition ne sert à rien. Mais il n'y a pas que l'alcool, hein, il y a tout un tas de choses. Alors, restons encore un petit instant sur pouvoir et contestation. C'est donc l'État qui régente la vente, la production, peut-être pas la production, mais enfin la vente de l'alcool. Et donc, elle prélève des taxes, elle vérifie que l'alcool ne soit pas trop toxique. Enfin, bon, la molécule elle-même, qu'on appelle nous l'éthanol en chimie, bon, ça dépend de la dose. Comme toute substance chimique qui agit sur le cerveau, c'est-à-dire tout psychotrope, l'important c'est la dose. À l'époque, Gilbert Bécaud, je crois. Mais bien sûr, c'est plus ancien que ça, hein, puisque c'est déjà les Grecs le savaient. Et ils savaient que à certaines doses, c'était un remède. Ça, c'est la naissance de la médecine, hein, en gros. Et puis, si on augmentait les doses, ça devenait un poison. Et ils ont donné deux noms, pharmaki, pharmako. Quelque chose d'approchant. Pharmacon, je crois. Et ça a donné la pharmacie et tout le reste. Quoi. Voilà. Donc, c'est une réflexion qui a pris sa naissance dans la nuit des temps de l'humanité. Quoi, en gros, hein, on va dire ça comme ça. Donc, il y a deux ou trois ans, nous avons vu les sédatifs, donc de grandes familles phares, c'est les neuroleptiques et les anxiolytiques. Alors, bon, vous les connaissez tous, hein, je veux dire, le Largatil et les benzodiazépines, par exemple. Et puis ensuite, nous avons vu les stimulants. Donc là aussi, si on prend deux phares, les amphétamines et les antidépresseurs, voilà, avec toute la cohorte de soucis qu'on peut avoir, ou bien éventuellement la possibilité de réduire des symptômes, je pense à la psychiatrie, enfin, les antidépresseurs dans le cas de la dépression. Et puis, donc là, je m'attaque à un autre grand morceau qu'on va appeler les drogues, pour faire simple, on peut mettre des guillemets si on veut, et ces drogues, elles sont répartis en trois grandes familles. Et cette année, ce que je voudrais faire sur ces trois séances, c'est très court, hein, je peux vous dire, mais je vais vous donner juste quelques pistes de réflexion, quelques faits. Je voudrais envisager la question de l'alcool, surtout aujourd'hui, puis à partir de la semaine prochaine, une autre catégorie qu'on va appeler les hallucinogènes, c'est-à-dire des substances qui donnent des hallucinations. L'alcool, ou les alcools si on veut, pour moi c'est plutôt les solvants même, ce sont des substances qui donnent de l'ivresse. L'ivresse c'est hubris c'est ebriantia. Voilà, alors bon, donc la catégorie que l'on peut voir, ce sont les substances de l'ivresse qui vont donc donner une forme d'ébriété. La semaine prochaine, nous allons voir les substances, quelques substances, et voir un petit peu comment on peut les apprivoiser ou comprendre comment elles agissent, donc celles qui donnent des hallucinations. La troisième semaine, j'essaierai de voir les mécanismes de ces substances hallucinogènes. Comme il y en a quand même beaucoup, ce ne sont pas les mêmes neuromédiateurs, donc je pense qu'il faudra quand même pas mal de temps pour... Et je ne pourrais pas aborder la troisième catégorie des stupéfiants. Donc ça veut dire que si Dieu nous prête vie, on peut voir ça l'année prochaine. Voilà, alors les stupéfiants, c'est là aussi, c'est un continent, et donc il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on n'aura pas trop de 3 ou 4 ou 5 ou 6 séances pour cela. Voilà, alors bon, donc on va se polariser. Je pense que c'est là que mon crayon marche. Voilà, on va se polariser surtout là-dessus, hein, ce soir. Ça, c'était juste pour faire le flashback sur ce qu'on avait vu l'année dernière et avant. Voilà, donc les drogues, que dans notre jargon en psychopharmaco, on appelle psychodysleptiques. Alors bon, c'est pour ça que je rentre dans les détails, mais psychodysleptique, ça veut dire que ce sont des substances qui agissent sur l'esprit, ou sur le cerveau en tout cas, et donc par le fait même sur l'esprit, et qui perturbent l'esprit. Voilà, le dys veut dire ça. Vous savez que maintenant il y a une manie, c'est le monde des dys, et bien là, voilà, les drogues ont tendance à modifier, altérer éventuellement l'esprit, et altérer, là aussi, il ne faut pas le voir de façon trop péjorative, hein, ça peut être embraser l'esprit, ça peut être détourner des objectifs, ça peut être bon, tout un tas de choses. Donc voilà, alcool ou ebriantia, donc hein, je vous l'ai déjà donné, peut-être que je vais avancer. Oui, voilà. Donc alors, ces substances ébriantes, inébriantes même, qui donnent de l'ivresse, eh bien, elles ont une caractéristique commune, c'est que ce sont toujours des solvants. Donc, ça pose la question de que sont ces solvants. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais un des meilleurs solvants, c'est l'alcool, l'éthanol. Hein. Quand je dis alcool, c'est... Pardon. On peut... Oui, mais je ne sais pas comment tu fais. Oui, ça serait bien.
Alors, on va pas faire à partir du début.
Ah, déjà mieux, c'est déjà mieux. Oui, 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 parfait. Merci, c'est déjà mieux. Mais bon, c'est pas facile à lire, hein, ça joue. Oui, merci. C'est pas facile à lire, simplement juste une clé. En chimie, on classe les substances selon les fonctions, bien entendu. Et puis, un deuxième critère, c'est selon la longueur de la chaîne carbonée. Et alors, juste, là j'ai mis 7. Alcool, pour juste vous donner dans l'oreille, hein, le premier terme plutôt de cette série, c'est le méthane, d'où l'alcool, c'est le méthanol. Voilà, tout simplement parce que il y a un seul carbone. Voilà. Et OH, Le OH, c'est ça la fonction alcool. Donc, toutes les fois qu'il y a la fonction alcool, si la molécule n'est pas trop lourde, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de carbone, alors à ce moment, c'est un très bon solvant. Oui. Bien sûr, celui que nous apprécions, c'est l'éthanol. Éthane, ça veut dire 2 carbones. Voilà, CH3CH2OH, avec toujours cette fonction alcool, par exemple. Puis ensuite, propane, butane, etc. Jusqu'à, bon, voilà. Donc, propane ou propre. Ah, décidément, je. Si on dit propre quelque chose, si c'est un ol, c'est de l'alcool, si c'est simplement le propane, c'est CH3, CH2, CH3, tout simplement. Hein. C'est-à-dire, bon, ça vous donne tout de suite la longueur de la chaîne et donc la masse atomique et tout un tas d'autres éléments. Butane, ça veut dire qu'il y a 4 carbones, pentane, 5 carbones, hexane, 6, heptane, 7. Voilà, alors bon, ça fait des chaînes, bon, peu importe finalement. Alors, peut-être qu'on va se polariser sur quelques solvants, autres que des alcools. Voilà, alors, la photo est célèbre. Ce sont bien souvent de jeunes enfants, à peine entrés dans l'adolescence, qui sont pour la plupart désespérés et qui essayent de combler le mal à être en sniffant, et de préférence des solvants. Et bien entendu, les solvants qui sont disponibles, ce sont les produits industriels que vous connaissez. Alors bon, classiquement, c'est la colle pour réparer les chambres à air. Voilà, alors donc ils mettent un peu de cette colle dans cette espèce de sac en plastique, et puis ils reniflent pendant assez longtemps. Bien entendu, rien que la posture, là, ça évoque déjà le doudou, quoi, en gros, mais hélas, c'est pas un doudou, quoi, c'est un dur-dur. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, comme ce sont des solvants qui sont reniflés, bien sûr, c'est la muqueuse olfactive qui est en première ligne, muqueuse olfactive qui est forcément constituée de lipides, c'est-à-dire de corps gras. C'est-à-dire toutes nos membranes cellulaires sont toutes constituées de lipides. Et les solvants, bien entendu, dissolvent ces membranes. Et si ça dissout les membranes, ça vient détruire les cellules olfactives, et puis derrière les vaisseaux capillaires, et puis derrière ça va passer dans le cerveau et ça va détruire les autres neurones que la muqueuse olfactive. Et ce qui fait que, bien sûr, ce sont des saignements de nez, et puis le cerveau est maltraité, en gros. Voilà, pour avoir des effets pas tellement gratifiants. Quoi. C'est un petit peu difficile à accepter. Alors bon, les chiffres sont astronomiques. Hein. Les études qui ont été faites aux États-Unis, c'est le nombre d'Américains ayant inhalé des solvants, c'est 1992, le chiffre que j'ai, de 12 à 17 ans, 1,171,000 personnes l'utilisent en permanence. Voilà. À 18-25, c'est 2,7 millions, ça augmente encore. 26 à 37 ans, 3,5 millions. Puis ensuite, au-delà de 35 ans, peut-être que les personnes ont d'autres activités, ça réduit. Donc, c'est-à-dire, bon, ce sont des jeunes adultes, on va dire, en gros, qui consomment beaucoup ces substances. Alors, ce sont des solvants organiques, bien sûr, et qui donnent tout un tas de symptômes. Vous les avez ici. Donc, les yeux rouges, vitreux, larmoyants, la pupille dilatée, des troubles de l'élocution, des démarches titubantes. Voilà, bon, c'est typique de l'ébriété, hein, c'est-à-dire qu'on peut vous prenez un tout petit peu de ces substances, vous êtes plutôt euphorique, et puis au fur et à mesure, vous perdez un peu vos facultés de perception, d'une part, et puis de mobilité, d'autre part, et puis d'association, de pensée, et autres. Là, le tableau le montre. Absence de coordination motrice, inflammation et saignement de nez, rougeur autour du nez, de la bouche, perte d'appétit, état d'ébriété donc, hein, et convulsion, et coma si ça se répète un grand nombre de fois. On va retrouver ça avec l'alcool, bien sûr. Bon voilà, il ne faut pas du tout l'effrayer, mais c'est comme ça que ça marche. Alors là, j'ai fait une petite liste de beaucoup de solvants que vous pouvez connaître, rencontrer, etc. Alors voilà quelques noms. L'acétate d'éthyle, l'acétate d'isoamyl, l'acétone, le benzène, le chloroforme, le cyclohexane, les différents alcools, toutes les catégories, hein. Le butanol, celui qui a 4 carbones, l'éthanol, celui qui en a 2, qui nous est cher, l'éther, bien sûr, le pentane, le trichloréthylène, le toluène, xylène, etc. Et puis, tous les produits qui contiennent ces solvants, c'est pour ça qu'on peut faire des prodiges, en quelque sorte, mais ça a un prix énorme. Vous devez les connaître, l'école, les différents joints, là, avec, toujours avec les trucs mastiques, les détergents, le dégraissage, les peintures, les vernis, les différentes marques, c'est pour soi-disant protéger des insectes. Voilà, xylophène, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est bourré de xylène, quoi. Et donc, une fois qu'on a compris que tous ces produits industriels, déjà ceux qui les fabriquent, ont des maladies professionnelles, bien entendu, il n'est pas question de le reconnaître, hein, ça coûterait trop cher, bien sûr, soit aux employeurs, soit à la sécurité sociale, vous connaissez la question, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les maisons sont remplies de ces substances, et que donc, en permanence, la bonne ménagère distribue des solvants à toute la sainte famille, et en priorité les enfants, bien entendu. Alors il y a des études qui ont été faites, montrer que la pollution à l'intérieur des logements est bien pire qu'à l'extérieur. Donc là, ça pose vraiment une question, non seulement ceux qui travaillent, mais aussi ceux qui utilisent, consomment en quelque sorte les substances. Au bout d'un moment, on dit, mais alors on ne fait plus rien, quoi. Peut-être qu'il faut peut-être faire moins. Alors là, c'est la décroissance, bien sûr. Et puis, si on doit faire, il y a des fois, il faut faire. Alors à ce moment-là, il faut prendre les précautions d'usage, c'est-à-dire, être dans la cour plutôt que dans la maison. Et puis, si vous êtes obligé d'être dans la maison, c'est aéré. Alors, mettre des masques, etc. C'est-à-dire, c'est une vie un peu délicate. Voilà, au moins, vous rappellerez que ça, peut-être, ça donne un peu d'ivresse, mais beaucoup de dégâts, et les formules sanguines s'effondrent, etc., etc. Enfin, je ne veux pas trop faire un tableau trop affreux, mais c'est quand même difficile à vivre. Alors, si vous voulez, laissons tomber tous ces solvants que vous connaissez, pour reprendre un autre solvant fantastique, c'est l'alcool, c'est-à-dire l'éthanol, et que lui-même, cet alcool, il est comme tous les psychotropes, à très faible dose, il est plutôt bénéfique, j'y reviendrai, et puis à forte dose, il amène beaucoup de soucis, donc on va essayer de voir quelques-uns de ces soucis, puis peut-être on pourra voir quelques-uns des avantages. Alors d'abord, je vous présente l'éthanol, voilà, CH3CH2OH, voilà, alors pour ceux qui font de la chimie, voilà, 2 carbones, il n'y a pas de difficulté, cette fonction OH est ce qui permet d'expliquer son rôle de solvant. C'est que cet alcool, notre organisme ne sait pas qu'en faire. Il n'y a pas moyen de le métaboliser. Alors, heureusement, nous avons un dispositif qui permet de changer un petit peu les choses. Nous avons des enzymes qui sont capables de transformer cet alcool en aldéhyde. Le drame, c'est que l'aldéhyde, qui résulte de l'oxydation de cet alcool, est encore plus toxique que l'alcool. Et alors, là aussi, vous devez savoir que tout le monde ne supporte pas l'alcool. Et les je ne sais pas bien comment le formuler, mais les personnes qui supportent le moins l'alcool, ce sont les Asiatiques. Il y a 20% des Asiatiques, je pense les Chinois et les Japonais surtout, 20% de ces personnes n'ont pas l'enzyme qui permet de détoxifier l'alcool. Et donc, se fait une goutte d'alcool, et puis alors ils sont malades comme des chiens, ce qui fait que ils sont plutôt branchés sur le thé, quoi, en gros. Hein. Et alors, ils en retirent beaucoup davantage, et puis du coup, ils viennent nous vendre du thé. Quoi, hein. C'est, bon, vous connaissez. Alors, bon. Donc, cet aldéhyde acétique, qu'en faire ? L'acétaldéhyde, plus exactement, qu'en faire ? Eh bien, nous avons un deuxième enzyme qui est capable de l'oxyder complètement et de transformer la fonction aldéhyde. Elle est là, voilà. Donc le CH2OH, on passe à CHO, exactement. Et puis, si on rajoute encore de l'oxygène grâce à cette enzyme, alors à ce moment on obtient un acide. Et c'est l'acide acétique, vous connaissez tous, que vous utilisez midi et soir, j'espère. C'est le vinaigre, tout simplement, dans la salade, une fois qu'on l'a bien fatigué. Voilà, ça vous fait saliver, tout simplement, parce que l'acide acétique est volatile et que ça vous met en appétit. Bon. Et alors, à ce moment, quand on a de l'acide acétique, il n'y a plus de problème, parce que ça rentre dans le cycle de Krebs. Et puis, on sait le modifier, l'utiliser. Voilà. Donc, du coup, on a un passage délicat pour passer de l'alcool à l'aldéhyde, puis de l'aldéhyde à l'acide. Et qui c'est qui fait ça? Ben voilà, on a l'homme à tout faire, là, c'est un organe particulier qu'il faut ménager, c'est le foie. Voilà, et bien entendu, il est très habile, parce qu'il est bien équipé avec ses enzymes. Le problème, c'est que chaque fois qu'il fait le boulot, il perd ses cellules, quoi. Hein. Et ça s'appelle, ce sont des hépatocytes, bon, c'est une marée bonne, c'est-à-dire bon, des cellules typiques du foie qui sont seules capables dans notre organisme de faire la sale besogne. Et les personnes qui vont consommer des quantités d'alcool faramineuses, bien entendu, leur foie est comme celui d'un canard, quoi. Hein. Une cirrhose, quoi, en gros. Et de ce fait, ça va mal, quoi. Voilà. Bon, alors, c'est bien la raison pour laquelle, quand on veut consommer de l'alcool, il faut le faire intelligemment. Et le faire intelligemment, c'est s'écarter du modèle anglo-saxon, comme d'une peste, et d'utiliser celui qu'on utilise depuis l'Antiquité, en tout cas dans notre culture, c'est-à-dire la façon grecque et romaine d'utiliser l'alcool. Voilà, et vous savez comment on fait quand on est grec ou romain? Comment on faisait? Je ne sais plus maintenant parce que les choses évoluent très vite. Pas une goutte d'alcool en dehors d'un repas, d'un gueuleton, je dirais même, d'un mâchon à Lyon. Voilà, c'est tout. Voilà. Tandis que chez les anglo-saxons, c'est complètement séparé. Il y a un moment où on mange, on s'en piffe. Oui, je ne veux pas être désagréable, on bouffe, j'ai l'impression, parce que ça nous est venu dessus. Hein. Alors, on bouffe, ou bien on se défonce. Et ça s'appelle le binge drinking. Voilà, c'est-à-dire, on prend de l'alcool fort, le plus fort possible, 45 degrés de préférence, oh, cul sec sur la bouteille. Voilà, juste à ce qu'on tombe. Alors, ça, c'est une folie furieuse. Et il se trouve que la mode, actuellement, c'est entre 11 et 20 ans, c'est le binge drinking, paraît-il. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec les banquets, ou même on était même allongé sur des banquettes, comme son nom l'indique, et puis on s'empifferait les grappes, puis paf, un petit coup de Redzina, ou de Raki, ou je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Et je vais essayer de vous expliquer comment le fait de manger permet de survivre par rapport à l'alcool, hein, je veux dire. Alors, puisqu'on est dans la question de l'éthanol, voilà, j'ai un chiffre 1985, on a fait le classement du nombre de litres d'alcool pur consommés par chacun des citoyens. Voilà, ben, comme d'habitude, la France, on a le pompon. On n'a pas encore tout à fait le pompon pour les déficits, mais enfin, bon, c'est imminent. De toute façon, si on prend la valeur absolue, je crois qu'on fait très fort. Voilà. Mais alors, depuis 2-3 ans, je vous ai toujours donné les classements de consommation, de neuroleptiques, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs. On est toujours au top. Toujours, toujours, toujours. Voilà. C'est notre caractéristique. Cocorico est toujours en haut du tableau, pardon. Et bien pour l'alcool, c'est pareil. Voilà. 13 litres 3. Et encore ça, c'est pas le pire de ce qu'on a connu. Alors, le pire qu'on a connu, je crois que c'était à l'époque des mineurs. Et on avait fait des concours sur les villages ou les villes. Et le pompon, je crois, alors il y a peut-être un demi-siècle, hein, c'était la ricamari. Oui, la ric, oui. Et la ric, c'était, je ne voudrais pas être méchant, mais je crois que c'était, vous me rectifierez puisque vous connaissez la ric, je crois que c'était 10 ou 11 litres par jour, par personne. Nouveau-nés, vieillards et autres. Bon, alors. Tout de suite, d'abord, un, c'était pas à 15 degrés, hein, le vin en question, c'était une piquette, et puis deux, ils étaient beaucoup de mineurs. Hein, donc, au fond de la mine, je crois, pour enlever le poussier, fallait pousser, quoi, hein, je crois. Hein, mais bien entendu, ça amène quand même beaucoup de solvants. Alors, si on regarde un peu ce petit tableau, vous arrivez à le lire, oui. La France, le Portugal, Luxembourg, ben, je ne sais pas s'il faut se détaxer, hein, mais bon, c'est un petit anachronisme. L'Espagne, l'Italie, voilà, bon, voilà. En tête, ils savent, ben, ce sont les pays méditerranéens, du bon côté de la Méditerranée, en gros, hein. Bon, voilà. Mais ben, parce qu'on sait faire, quoi, hein. On sait l'utiliser. Alors après. Bon, ça descend avec l'Allemagne, la Belgique, Danemark, Pays-Bas, USA. Puis après, la Grande-Bretagne. Alors, je ne sais pas pourquoi. La Grèce est à la traîne, là. Bon, il doit y avoir autre chose. L'Irlande, l'URSS. Alors là, l'URSS, je pense que c'est les statistiques. Ils vont pas. Non, là, il y a un bug. Et enfin, le Japon, lanterne rouge sur ce tableau. Eh bien, je vous ai déjà donné un peu la raison. C'est que, bon, on fait la cérémonie du thé, c'est très bien. J'ai les vieilles chats, je ne sais pas quoi. Et puis, il y a quand même 20% de la population qui reste à l'écart de ces molécules. Bon, c'est de l'alcool de riz. Je ne suis pas sûr que... Non, c'est pas un Châteauneuf du Pape, quoi. C'est sûr. Donc, du coup, il y a d'autres plaisirs, probablement, qui font que... Bon, voilà, ça vous donne une petite idée. Alors, puisqu'on en est à faire des comparaisons, j'ai des cartes. Voilà, une carte qui a été dressée en 1859. Pas d'hier, hein. Alors, ce qui vraiment consomme beaucoup, ce sont ces personnes-là. Voilà, le Languedoc, en un mot. Et puis, un petit peu moins, hein, c'est un litre d'alcool, hein, enfin, bon, ce sont ces zones-là, voilà. Et puis, tiens, le calva, bon, voilà, alors, on voit que, donc, là où on consomme beaucoup d'alcool, c'est finalement là où on produit des bons produits, quoi, en gros, voilà, ce sont les vignobles, je vais dire, gallo-romains. Et au passage, les vignobles gallo-romains, les vignobles plutôt français, sont le dernier vestige des monuments gallo-romains intacts. Enfin, presque intacts, pas tout à fait, mais enfin bon. Alors, ça c'est 1859. Regardez en 1904. Alors avec les mêmes légendes, hein, on voit que c'est passé tout au nord, là. Chez Ch'ti, presque, hein. Bon. Non, il y a encore un petit effort à faire, mais peut-être que la Flandre, je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais plus très bien, 1904. Bon, en tout cas, moi, la conclusion que j'en tire, c'est que là où il y a des vignobles qui sont de plus en plus, on va dire, améliorés, bichonnés, je ne sais pas quoi, reconnus, ben, on consomme modérément, quoi. C'est-à-dire, on sait consommer, parce qu'on a l'habitude, finalement. Tandis que au nord, on découvre la marmite et on tombe dedans, quoi, probablement, quoi. Hein. Ça s'est déplacé, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, on peut toujours comparer aussi les hommes et les femmes. Alors, voilà. Voilà. Bon, c'est très vilain, mais bon, ce sont des graphiques. Ça vous donne une petite idée de la population avec l'âge, là. Voilà. L'âge est ici. 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 45, 50, donc là, 60, 70, 80. Alors, non, jamais bu régulièrement. Donc, on voit qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, ça diminue, quoi, très nettement. Hein. On cessait de boire, ah ben, ça augmente, par contre, là, voilà. On devient raisonnable en prenant de l'âge. Un verre ou deux. Il n'y a vraiment rien à dire de ce que je vous dis, même si c'est même un peu en dessous, ben voilà, elle a la courbe. Et puis, 3 ou 4 verres, alors voilà, elle est très vilaine parce que c'est une couleur mais qui n'est pas placée correctement. 5 à 8 verres, alors là c'est vraiment plus qu'excessif, hein. Tout ce qui est en noir c'est vraiment très excessif. Voilà, c'est toute cette courbe là. Et puis 9 verres ou plus, bon, c'est un petit liseré. Alors, ça vous donne une petite idée. Ça, ce sont les hommes. Je vous montre la consommation qui était repérée chez les dames. Mais en 1994, d'après les chiffres en question, ben voilà, on voit que c'est quand même bien plus raisonnable. N'ont jamais bu régulièrement, voilà. On cessé de boire. Un verre ou deux, alors jusque-là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, là, bon, c'est la règle, hein, qui s'impose d'un point de vue médical. 3 ou 4 verres, oh, là, peut-être régulièrement, puis ensuite, beaucoup plus. Voilà, ça vous donne une différence, et j'insiste encore, la règle, c'est ça. 3 verres pour un homme par jour, et puis 2 verres par jour, pour une femme. Alors bon, c'est pas du tout une question de sexisme, c'est une question de dimorphisme sexuel. C'est-à-dire qu'en gros, quand on donne un chiffre moyen, en moyenne, les hommes sont un peu plus grands et donc un petit poil plus lourds, et comme c'est la masse corporelle qui va compter, c'est accordé un verre de plus par jour, et puis les femmes étant un petit peu plus petites, un peu moindre masse corporelle, ben, 2, voilà, peu qu'il soit bon, finalement. Alors, là aussi, un article, là, bon, je l'ai, mais là, je vous donne juste la carte, c'est assez étonnant, il y a des études qui ont été faites sur qu'est-ce que les policiers font comme procès verbal auprès des conducteurs automobiles. Hein. Il y a des difficultés parce que quand on a bu de l'alcool, on perd beaucoup de nos propriétés. Alors, on s'est aperçu qu'ils s'acharnaient beaucoup sur la conduite en état alcoolique. Voilà, et que c'est centré surtout par là. Voilà, alors bon, est-ce que c'est vrai que les Bretons boire beaucoup d'alcool, je ne sais pas. Mais alors à Rennes, c'est 80% des contraventions qui sont dues à une conduite avec le ballon qui a soufflé, chauffé, je ne sais pas quoi. Mais bien entendu, quand on prend à Marseille, ben c'est 3,5. Alors c'est par là, dans ces zones-là. Le problème, c'est qu'il y a toujours autant de procès-verbaux, mais c'est pour des irrégularités de papier ou d'agression ou de je ne sais quoi. Alors bon, forcément, il y a des priorités probablement en fonction des frontières, en fonction de tout un tas de choses. Et donc, c'est peut-être à reprendre. Mais enfin bon, là voilà, si on prend le critère, là, dans les tribunaux, voilà, très noir, là, c'est zone. Et puis ensuite, ici, presque jamais, il n'y a presque jamais ces infractions. Bon, c'est juste à prendre avec des pincettes. Hein, donc. Ah, tiens, un problème là. Ah oui, c'est ça. Comment on revient, vous savez? Comment? Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vais peut-être le reconstituer, mais comment tu as fait pour... Bon, enfin... C'est compliqué.
Oh, là, on le verra, notre... il y a quelque chose dessus, là comme...
Non, c'est ça, là, c'est ce tableau, là. Est-ce qu'on le voit? Merci beaucoup. Je vais te redemander de revenir. Bon, voilà, là, c'est... Bien entendu, l'alcool donne tout un tas de choses, mais encore, on reste encore avec la marée chaussée qui nous donne des infos. Ce sont les rapports entre la délinquance et l'alcoolisation. Voilà, ce sont des chiffres anciens, hein, 1980. Les infractions que l'on voit, la relation entre l'alcool et ces infractions, homicide volontaire, 69%. Crimes et délits contre les enfants, 38%. Coups mortels, blessures, 29%. Homicides et blessures involontaires, 14%. Crimes et délits sexuels, 27%. Incendies volontaires, 53%. Bon, donc, simplement, vous commencez à comprendre que l'alcool donne des dégâts sociaux incroyables. Enfin, c'est des effets collatéraux, je crois, on dit ça en termes militaires, mais ça devient hallucinant. Rébellion et outrage, 34%, dégradation d'objets publics, 30%, vol, 14%, vagabondage, on n'ose pas dire mendicité, 28%, on voit quand ça, il fait très froid, je comprends qu'il y a le fil de rouge, malheureusement ça ne réchauffe pas, ça donne l'impression de réchauffer, mais ça fait contracter une dette épouvantable. Bon, violation de domicile, brique clôture, 35%, toutes infractions confondues, 19%. Alors, cette étude montrait que l'alcool provoquait 1300 décès par an, 10 000 blessés par an, toujours, hein, 4 000 suicides, 420 000 crimes et délits. Et puis, de sources sûres, plus récemment, alors ça c'était plutôt dans les années 95-2000, j'ai des chiffres qui font beaucoup plus froid dans le dos, je les tiens d'un ami avec qui j'étais au conseil de l'université de Suze-Larousse, qui était correspondant, il y avait quand même 60 000 décès par an, qui étaient relevés dans fin 90, 1 million d'alcooliques, c'est-à-dire qui boivent démesurément, et comme cet alcoolique est dans une famille, il y a 3 ou 4 fois plus de personnes qui sont alors vraiment victimes de l'alcool. Jean-Paul David dit qu'il y a 4 millions d'alcooliques. Pas d'alcooliques, 4 millions de personnes qui souffrent de l'alcool en France. Donc c'est quand même assez colossal pour qu'on essaye de voir. Alors bien entendu, donc ces problèmes merci beaucoup. Ces problèmes avec l'alcool, ils sont vieux comme le monde, hein. C'est-à-dire, bon, déjà dans l'Empire romain. Merci beaucoup. Dans l'Empire romain, ça a été, enfin, quand je vous ai présenté, je vous ai dit qu'il y avait ces alternances, quoi. À des moments, les caisses de l'État étaient vides. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On favorisait le fait de planter de la vigne, parce que ça faisait des taxes. Et puis à un moment, les problèmes étaient tellement insurmontables, alors on prenait un haro sur l'alcool, et alors à ce moment, on faisait arracher les vignobles. Voilà, alors c'était les empereurs romains qui prenaient les décisions. Et alors, ça marchait aussi bien à Rome qu'en Gaule, que partout, ils avaient le pouvoir, quoi. Et alors, on n'a pas arrêté de faire ça. Et là, en l'occurrence, là, il y avait des bacchanales à cette époque, où là, bon, c'était des orgies, hein, c'était pas mal affreux, quoi, en gros, hein, bon, les gens donnaient du plaisir. Eh bien, le Sénat romain a pourchassé, et je crois, faisait tuer les partisans de ces bacchanales, quoi, puis jusqu'à ce qu'on soit ruiné et qu'on replante à nouveau des vignobles, etc. Voilà, c'est un carnaval. Et puis bien sûr on trouve des traces ailleurs, hein, c'est bien sûr en Égypte, là, voilà, alors là vous avez des inscriptions qui sont qui relatent ce qui se passe, là, voilà, par exemple, voilà, c'est un serviteur qui est en fait un garde, simplement, là, qui est ici, là, puis qui c'est un peu pompette, comme on dit, hein, là. Et effectivement, on voit que derrière, derrière lui, il y a les outres. Là, elles sont bien sûr pleines de vin. Et puis, il y en a un serviteur qui amène encore son outre. Et puis, il demande, mais qu'est-ce qu'il a, là? Alors, l'autre lui répond, là, alors, vous voyez, c'est pris, là. Bon, ben voilà la traduction. Voilà, à gauche, le porteur dit au gardien du cellier, il est ivre à cause du vin. Le portier qui frappe la porte dit, le serviteur dort. Le serviteur proteste, non, je ne suis pas du tout endormi. C'est ça, bon, voilà, c'était la 18e dynastie. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît les problèmes. Alors, juste quelques idées, vous l'avez plus ou moins déjà expérimenté. Donc, il y a une imprégnation qui peut être aiguë. Alors, à ce moment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, sauf si c'est vraiment trop important, quoi, hein. Ça vous donne quand même beaucoup de choses. Alors là, le texte aussi est ancien, hein. Là, il est encore à 0,8, bon, maintenant c'est 0,5, et puis même 0 si on prend le volant, je pense. Hein. Donc il y a une phase d'excitation psychomotrice, impression de toute puissance, de facilité intellectuelle, relationnelle. Voilà. Eh ben, là, tout est dit, et c'est pour ça qu'on a un peu ce culte de peau de l'amitié, quoi, hein, si on fait quoi que ce soit, même à l'Unipop, on met un godet, quoi, bon, hein, voilà, alors, du coup, comme tout le monde est un peu timide, réservé, bah, dès qu'on a un petit verre, un petit gorgeon, ben, voilà, les distances se réduisent, et puis on se met à discuter, puis, alors, vous écoutez, brum, le bruit monte de façon incroyable, les gens sont joyeux, etc., voilà, c'est typique. Alors, si j'insiste un tout petit peu ça sur ces aspects cliniques, c'est qu'on va retrouver ça dans le mécanisme. Il va falloir expliquer ça. Alors, une hyper-responsivité des gestes, de la parole, rôle dans les cocktails, et vous vous sentez tout de suite si les gens sont au premier verre, au deuxième, au troisième, simplement en écoutant, tout simplement. Et quand vous ne pouvez plus en placer une, vous dites, oh voilà, ça y est, les amis, toc, toc, toc. Bon ben, on va arrêter, quoi, hein. Alors passe au jus de fruits, quoi, en gros, parce qu'il y en a trois, quoi, c'est bon, après vous devez rentrer. Perte du contrôle des centres supérieurs, d'où la libération des instincts, les pulsions, etc., d'où les gens qui se mettent à hurler, à gesticuler de façon démesurée, puis peuvent éventuellement devenir corrélleurs, et puis même éventuellement être plus agressifs, quoi. Alors ensuite, il y a la phase d'ébriété, c'est-à-dire bon, là vraiment quand on est sous l'ubris, c'est-à-dire l'ivresse, en gros, on pense qu'on va pouvoir avoir gain de cause sur une autre personne, ou sur un groupe, ou sur je ne sais pas quoi, c'est-à-dire bon, c'est un peu de folie, quoi. Mais bon, on est pris dans notre idée fixe. Démarche instable, gestes non coordonnés, non symétriques, paroles bredouillantes, pensées embrouillées, confusion. Donc là, on sent tout de suite que le cerveau, il peine à se réguler, à rester raisonnable, puisque bon, c'est au niveau moteur, au niveau perceptif, au niveau des associations, ça commence à devenir confus, quoi, c'est l'ivresse. Nausées, vomissements, diarrhée, c'est le système nerveux autonome. Et puis, encore un petit coup, parce que des fois ça peut être agressif, quoi, et il y avait un vieux médecin qui me disait, ben, tu sais, j'ai tellement vu d'alcooliques qui étaient agressifs, bon, j'ai trouvé qu'une solution, c'était dire, bon, allez, on va trinquer un petit coup, voilà, un verre plus, et puis bon. Alors, à ce moment, il le passait dans la phase dépressive, et donc, hein, ce que ça donne, voilà, sommeil, évolution vers le coma, hypotonie musculaire, dépression respiratoire, hypotension, hypothermie, polyurie. Et bon, avoir envie de pisser, puis toutes les 5 minutes, tirer la chasse, etc. Amnésie, hein, c'est beaucoup plus ennuyeux. Trou noir de plusieurs heures qui angoisse le sujet et qui tente de masquer par des affabulations. Voilà, là, c'est typique d'un alcoolique. Pourtant, on est en aigu, là, mais si la personne prend des habitudes de prendre des doses suffisantes, voilà, il va avoir des grosses amnésies. Et il est conscient, il en souffre. Alors, il raconte des histoires, un serment d'ivrogne, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Hein. Bon, donc c'est très 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 important pour la suite. évolution vers une excitation motrice, des hallucinations, le délire, les convulsions. Voilà, bon, c'est un tableau. Donc, je veux dire qu'il faut rester dans la première phase, quoi. Hein. Là, c'est tout. Mais, alors, on peut se prendre une biture, hein, ça n'a jamais tué personne. Mais il faut avoir quand même un copain qui vous file un coup de jet d'eau, hein, ou je sais pas, du café avec de l'ammoniaque, si ma mémoire est bonne, ou je sais plus quoi. Enfin, il y a tout un tas d'astuces pour pas partir, quoi, complètement, pas être complètement hors de soi. Sinon, on n'est plus tellement un homme, quoi, hein, si on sait plus ce qu'on dit, quoi. Bon, alors, bien sûr, il y a des imprégnations chroniques. Et là, bon, c'est plus sérieux, chronique, hein. C'est, en médecine, on dit aigu, ça veut dire c'est une fois, et puis chronique, ça veut dire que ça dure et ça continue, et c'est sur le long terme. Et alors à ce moment, autant en aigu, le cerveau peut se défendre, ou en tout cas restaurer, parce qu'on a des cellules souches qui viennent réparer les cellules qui ont été endommagées, mais quand c'est tous les jours qu'on massacre le cerveau, ben... Mais à un moment, ben, il baisse les bras, quoi. En gros, alors à ce moment, c'est l'imprégnation chronique. Alors, cette alcoolisation chronique met en œuvre un scénario catastrophe qui va conduire le sujet vers le délirium, puis la démence et la mort. Bon, pas un système, mais enfin, bon, il faut le savoir. Au-delà de l'ivresse aiguë, l'alcoolisation peut entraîner de curieux comportements graduels que l'on regroupe sous les termes d'illusion, d'hallucination et de délire. Alors. Donc ces trois éléments qui donc montrent bien que là on est vraiment dans l'appréhension de l'esprit, quoi, et que bien sûr ça veut dire qu'on a cette substance qui agit sur le cerveau, qui va donc modifier le fonctionnement du cerveau, qui va donc modifier l'émergence des fonctions psychiques. L'illusion, c'est la sensation déformée à partir d'un élément sensoriel réel. Voilà, c'est-à-dire vous voyez double, vous voyez trouble, vous voyez quelque chose, mais bon. Le sujet n'est pas complètement dupe. Voilà, illusion, ça veut dire qu'il se doute que peut-être il y est pour quelque chose, quoi. Voilà, hein. Donc, tant qu'on est dans l'illusion, on n'a pas souci. Là où ça devient plus embêtant, c'est la deuxième phase. Les hallucinations. Parce que quand on dit hallucination, c'est qu'on y croit mordicus, quoi, en gros. Hein. Enfin, on y croit assez pour être déjà un petit peu... Avoir un petit peu, oui, être passé derrière le miroir. Sensation perçue sans éléments sensoriels réels. Voilà, donc on a inventé un monde nouveau. Les hallucinations alcooliques concernent tous les organes des sens. Aussi bien les hallucinations visuelles, alors des images lilliputiennes, c'est-à-dire tout petit, comme des cafards, quoi, en gros, n'importe quoi devient tout petit, et puis on a... Trop peur, voilà, le hors-là vous le donne, voilà, les farfadets et autres, c'est typique de ça. Ou bien des monstres minuscules, ou bien gigantesques. Voilà. Et puis des fois, boum, ils passent d'un micro à un macro. Alors, autant vous dire, les angoisses, c'est pas possible. Et les gens qui sont, qui subissent ces personnes, elles n'en peuvent plus, quoi. Auditive. Voilà, hein, des animaux effrayants, voilà, oui. Les hallucinations auditives, des paroles ou des propos à signification érotique, surtout, professionnelles, culpabilisantes ou persécutantes. Et puis, il y aura les délires. Alors, je pense que c'est derrière. Voilà. Les délires. Les illusions sont toujours critiquées par le sujet et les hallucinations, quelquefois. Sinon, un délire s'organise. Voilà, alors. C'est donc un degré de plus, c'est que le délire, c'est béton, on ne peut pas l'attaquer, on ne peut pas lui dire à la personne, mais non, tu crois ça, tu te fais des idées. Non, pas question, machin, c'est-à-dire il est vraiment muré dans son... Il a une certitude, quoi. Le sujet y adhère et peut ainsi passer à l'acte et devenir dangereux pour lui et autrui. Et puis, bien sûr, puisqu'on est dans le chronique, alors à ce moment, il y a un nouvel écueil qui arrive, c'est que dès que la personne est privée d'alcool, alors il est malade comme un chien, en gros, hein, c'est le syndrome du sevrage. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il trouve de l'alcool. Et en général, il sait retrouver de l'alcool parce qu'il l'a planté derrière les fagots, en gros. Et puis si jamais ce n'est pas de l'alcool consommable, Et bien, hélas, il va prendre n'importe laquelle de l'alcool, alors de l'eau de Cologne, ou n'importe quel solvant, finalement. C'est-à-dire, bon, mais merde, mais c'est épouvantable. Quand vous connaissez les comportements, bon, assez vite, vous pouvez repérer. Ça fait comme un fumeur qui fume deux paquets de cigarettes par jour, et puis qui s'aperçoit qu'il n'a plus de clope. Bon, ben, à 3h du matin, il va parcourir la ville. Simplement, avec l'alcool, c'est que s'il y a de l'alcool de l'autre côté de la vitrine, il va casser la vitrine. Quoi. Parce qu'il est en manque, il souffre terriblement. On va le voir. Donc, le syndrome de sevrage, c'est le syndrome qui se manifeste lors de l'arrêt de l'alcoolisation d'un sujet dépendant. Voilà, alors c'est le nouveau concept, hein, c'est-à-dire, à force de prendre de l'alcool, la seule chose qui peut l'empêcher de souffrir, c'est justement de l'alcool. Et cet alcool, il le reprend, et ça l'enfonce encore dans son trouble, et donc du coup, il va en reprendre un peu plus, et donc c'est le principe de la dépendance. C'est-à-dire, il ne peut pas se rapasser, il va prendre quelque chose qui va le rendre encore plus dépendant. Alors bon, on verra ça avec les stupéfiants, c'est la définition même d'un stupéfiant, c'est la tolérance et la dépendance. Il a été mis en évidence en 1946, une multitude de symptômes peuvent apparaître à convulsions et au délirium tremens, hein, donc. Des expériences ont été effectuées à des doses massives, 300 grammes par jour, bon, sur des prisonniers aux USA, c'est criminel hein, de le faire. Hein. Alors, donc on sait comment ça se passe. Un malaise général, tremblement régulier des extrémités des membres, puis de la face, nausées, vomissements, diarrhée, fièvre, insomnie, nystagmus, c'est-à-dire des mouvements des yeux complètement déjantés, tachycardie, c'est-à-dire la chamade, troubles sensoriels visuels, gênés par la lumière, puis hallucinations, auditives, gênés par le bruit, puis hallucination, cutanée, prurite, puis hallucination, etc. C'est-à-dire, on ne supporte plus les sensations, ni même les perceptions, et on a de nouvelles perceptions, c'est la psychose, quoi, en gros. Confusion, allant jusqu'à la désorientation temporo-spatiale, crise convulsive, etc., etc. Voilà, bon, c'est un peu diabolique, et puis, ça ne s'en arrête pas là, si vraiment c'est très installé, ben, on a ce qu'on appelle des encéphalopathies, c'est-à-dire, pathologie de l'encéphale, c'est le cerveau qui est, ben je vais prendre le terme carrément, hein, puisque c'est un solvant, l'alcool, ben c'est, le cerveau est soluble dans l'alcool. Voilà. Et alors à ce moment, ce sont les syndromes de Gaillet, d'une part, et puis de Korsakoff, qui sont. Là. Alors bon, il y a pour Gaillet vernissé. Ah oui, mais là, je ne peux pas tricher. Voilà, Gaillet vernissé. Ben, il y a une triade qu'il faut connaître, perturbation de la conscience, obnubilation au coma, trouble de l'équilibre, dû au cervelet ou à l'oreille interne, vestibulaire, cérébelleux ou vestibulaire, hypotension orthostatique, c'est-à-dire dès que vous changez de position, vous perdez votre contenance, en somme, et vous tombez, hypothermie, donc vous avez toujours froid, cirrhose, polyhydrite des membres inférieurs, c'est les pattes font toujours mal parce que les vaisseaux sont durs et cassants, etc. On trouve 1 à 5% de cas dans la population, mais on passe à 10 à 15% chez les sujets alcooliques. Lésions au niveau des corps mammilaires, des noyaux ventromédians du thalamus, du tronc cérébral, l'aqueduc de Sylvius, etc. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails, simplement ça prépare le Korsakoff. Le Korsakoff, c'est essentiellement les pertes de la mémoire, mais colossales. L'amnésie, donc, résulte de l'encéphalopathie, hein, c'est la suite finalement, on retrouve beaucoup ces signes avec une amnésie antérograde absolue, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, complètement balayé. Désorientation temporo-spatiale, fausse reconnaissance, confabulation, le raisonnement est cependant conservé. Et puis des crises convulsives, en grand nombre. Voilà, alors, bon, le tableau est assez chargé, je n'ai pas besoin, mais maintenant, je voudrais juste donner... Bon, ce petit tableau est en fait détourné, c'est pas de l'alcool dont il s'agit, mais ça fait rien, c'est un pense-bête. C'est juste pour dire l'interaction qui existe entre l'alcool et certains médicaments. Et d'une façon générale avec d'autres drogues, hein, bien entendu. Et en gros, l'alcool a comme effet de booster, d'emballer les effets de ces médicaments. Et je pense aux antidépresseurs et puis aux anxiolytiques, hein, Valium et autres. Déjà, ces anxiolytiques et ces antidépresseurs sont déconseillés il est déconseillé plus exactement de conduire ou de faire tout un tas de choses qui vous rendent du reste inapte au travail. Mais alors si vous rajoutez de l'alcool, alors là vous multipliez par 10 les effets. Et alors c'est un drame parce que là on ne peut pas tellement contrôler. Voilà, c'est ce schéma-là explique une fonction physiologique qu'on appelle justement un renforcement croisé entre les différents éléments. Et puis une autre interaction qu'il faut connaître aussi, c'est que, et là on rentre dans les polytoxicomanies, c'est que si on a besoin de prendre une drogue, ben, bien souvent au bout d'un moment, on trouve qu'elle ne suffit pas, alors on en rajoute une autre, et puis ça ne suffit pas, alors on en rajoute une troisième. Vous connaissez le processus, on l'a déjà un petit peu vu, on le reverra l'année prochaine. Là, ça veut dire que les gens qui boivent, ben, bien souvent, ils fument aussi. Et donc, ça mène une interaction, et là, j'ai un tableau qui est diabolique. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer pour que le risque relatif de survenue d'un cancer des voies aériennes et digestives supérieures, relation entre le tabac et l'alcool. Alors, voilà, le tabac est pointé ici. Voilà, alors c'est en nombre de cigarettes. Aucune cigarette, moins d'un paquet, deux paquets, et puis plus de deux paquets, trois paquets et plus. Et puis l'alcool, voilà, c'est en grammes par jour, rien du tout, ils sont abstinents, ces personnages. Alors à ce moment, ceux qui sont abstinents de partout, pour le tabac, pour l'alcool, ben, on prend l'unité, c'est-à-dire ceux qui mettent spontanément un cancer, ben voilà, ils servent de référence, ce sont nos témoins en somme. Et puis, si on prend plus de 10 jusqu'à 40 grammes par jour, ici, et puis là, plus de 40 grammes par jour. Et alors ensuite, ben, on va regarder les différentes cases. Voilà, alors si on prend pas d'alcool, et puis un paquet de cigarettes, de 1 passe à 1,52. Si on prend deux paquets, ben, ça réduit un petit peu. Bon, enfin, bon, la petite, on va peut-être augmenter l'effectif. Mais alors, par contre, assurez-vous, si on prend trois paquets, de 1 passe à 2,43. Voilà, 2,5. Et puis, si on prend dans le sens, voilà, ici, nous avons les pénitents, comme, hein, alors, si on prend de l'alcool, 1,40, 1,50, donc 1,5, et puis si on est au-delà de 40 grammes par jour, 2,33. Regardez là, la symétrie de cette matrice, hein, c'est incroyable, hein, d'un point de vue mathématique, c'est fantastique, parce que on dirait que le nombre de cigarettes correspond au gramme d'alcool, enfin, vraiment, c'est une grande beauté, ben, c'est simplement que... non mais, d'un point de vue mathématique. et c'est dramatique, bien sûr, parce que derrière, il y a des hommes qui soufflent le martyr puis qui meurent, quoi. Mais bon, il n'empêche que cette symétrie est étrange. Voilà, et puis si on passe ici, voilà, 4,13. Si on passe ici, 40,40, 9,39, c'est un gros calibre, quoi, en gros, hein. Et puis enfin, si là vous faites sauter le caisson, là, 40 d'un côté, 40 de l'autre, 15,5. C'est-à-dire 15 fois plus que le témoin. Ah bon, alors vous, bien sûr, vous avez des gens qui vivent jusqu'à 100 ans sans cancer, sans rien du tout, en fumant deux paquets ou trois. Hein. Mais n'empêche que la probabilité, là voilà, c'est un calcul de probabilité. C'est diabolique, quoi. De voir comme c'est progressif. Bien sûr, nous ne sommes pas égaux, hein, nous n'avons pas les mêmes enzymes, nous n'avons pas les mêmes gènes, nous n'avons pas les mêmes oncogènes, nous n'avons pas les mêmes machins. Mais si vous rajoutez chaque fois des éléments du milieu extérieur, qui de l'alcool, qui du goudron, forcément vos oncogènes, ils se réveillent à un moment, puis ils se mettent à s'emballer, et puis vous avez les cellules qui se mettent à se diviser, quoi, voilà. Alors là, vraiment, c'est extraordinaire. Enfin, vous réfléchirez à ce tableau, mais... bon, alors, bien entendu, vous avez déjà compris que l'alcool, l'éthanol, hein, l'alcool est un psychotrope, premièrement. Psychotrope, vous avez déjà compris qu'il était polysémique, c'est-à-dire qu'il agissait à différentes cibles. Vous avez probablement aussi appris que c'était plus ou moins un médicament. Ça peut, si on reste modeste, hein, deux ou trois, quoi, verres par jour, en vin, pas des alcools de merde, hein, bon, du bon vin, bon, deux ou trois, ça suffit, c'est assez cher pour qu'on n'en consomme pas plus, et pour la santé, il y a presque rien à dire, j'y reviendrai. Mais, ça suffit pas pour comprendre pourquoi les gens continuent à boire de l'alcool. Faut quand même reconnaître. Alors ça l'explique très bien, comme vous le voyez. Alors, l'alcool, avant d'être un psychotrope et un médicament ou une boisson, on boit pas du vin parce qu'on a soif, hein. C'est bien sûr. Eh ben non. C'est tout simplement parce que l'alcool, et je pense plutôt au vin, est un symbole. Et ce symbole, ben le voilà. Alors, c'est en hébreu, hein, bon, je ne sais pas quoi, yiddish, je ne sais quoi, je ne sais pas le lire, mais j'ai la traduction. Là, ça va mieux. Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés, etc. » Je vous le déclare, gna gna gna. Bon, Matthieu, ben, c'est un chouette. Voilà, bon, donc forcément... En tout cas, dans la culture catholique, sur cette rive de la Méditerranée, ben oui, c'est vrai que, voilà, mais avec modération, c'est-à-dire, bon, juste une burette, derrière l'autel, sinon on est tout décalissé. Alors, bien sûr, il prit une coupe, eh ben justement, alors les coupes, c'est pas innocent. Alors bien sûr, c'est vieillot ce que je vais raconter, mais ce sont les coupes de champagne, pas les flûtes, les coupes. Parce que vous savez, quand vous avez un grand nez dans une flûte, c'est vraiment affreux, et pour déguster un champagne, c'est incroyable. Par contre, quand vous avez une coupe comme ça, là c'est le pied. Là, hein. Et alors, bon, il s'est trouvé que les coupes qui sont assez récentes, on a pris l'empreinte de Lee Miller, qui est ici, là, hein. C'était la maîtresse de Man Ray. Hein. Et donc, bon. Chaque fois qu'on prend une coupe de champagne, bien entendu, il y a une petite émotion, quoi. Mais je vais vous dire, ça c'est la belle époque parisienne et tout. Mais en fait, notre tradition remonte à bien plus avant, puisque sous Louis XV, l'empreinte a été prise sur le sein de Madame de Pompadour, paraît-il. Et donc, forcément, les coupes, elles ont toujours une forme évasée. Et les hommes ne sont pas dupes, bien entendu, hein, ça c'est bien clair. Alors, je pousse un tout petit peu plus loin, le symbole, encore. Vous savez quel est le saint patron des vignerons ? Saint Vincent. Alors là aussi, c'est quand même vraiment beaucoup de signifiants là, pour un seul homme, hein. Saint, vin et sang. Alors là, vraiment, bon, le sang, là, bon, on l'a eu, hein, prenez ceci, c'est mon sang, je sais pas quoi, le saint, etc. Alors forcément, quand on baigne dans cette culture, c'est vrai que ça peut pas faire mal, quoi. Si vous y allez mollo, quoi, hein, ça c'est, je dirais jamais assez, hein. Et donc, bien entendu, alors là aussi, hein, alors la photo est affreuse, le rendu est mauvais, parce que j'ai pas retrouvé mon original. C'est un ouvrage qui s'appelle « La culture de l'ivresse » et qui a été écrit par Véronique Naum Grapp. Alors déjà, bon, Grapp, là, vous dites, bon, ben, ouais, il y a sûrement quelque chose, hein, là. Il y a encore un signifiant qui nous travaille, quoi, ça c'est bien clair. Mais alors, Véronique Naum, ben, je sais pas si vous connaissez son père. Tous, vous connaissez son père. Alors, bien entendu, il porte plus son patronyme, il porte son nom de guerre, c'est Edgar Morin. Et alors, ce bouquin, ben c'est une hymne à l'ivresse, mais c'est extraordinaire, toujours en restant très raisonnable. Hein. Mais alors, vraiment, hein, une lecture, bon, je n'ai pas le temps de vous la faire, mais c'est extraordinaire, elle explique parfaitement bien que les gens sont désespérés, et que donc, il n'y a qu'un recours. C'est effectivement s'enivrer, quoi, après Baudelaire et beaucoup d'autres, et que du coup, les vies nocturnes et autres, c'est tellement angoissant, le noir, le je ne sais quoi, le sommeil, du dernier sommeil et de la peur de mourir, que. Alors, mais vraiment, si vous pouvez lire cet ouvrage, c'est assez extraordinaire. Alors. Maintenant, je veux. Oh là oui, j'ai déjà dépassé un peu le temps. Il faut que j'arrive sur la conclusion un petit peu. Donc, on a vu plusieurs facettes de cet alcool. Et donc, si vous voulez, je vais juste enfoncer un petit peu le fer pour retrouver qu'est-ce qui peut expliquer que l'alcool donne tant d'effets si divers et si contradictoires. Eh bien, comme toujours. En psychopharmaco, en tout cas, quand on a une substance qui agit sur le cerveau, on sait, par définition presque maintenant, qu'elle agit sur un récepteur. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une protéine qui la reçoit, cette molécule, et quel est ce récepteur? Ben, c'est le récepteur d'un neuromédiateur, et ce neuromédiateur, ben, vous l'avez sous les yeux, là, voilà, c'est le GABA. Voilà, alors peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose, mais... Bon, sachez que nous avons un neuromédiateur dans notre cerveau qui est partout dans notre cerveau, qui a une fonction, c'est d'être un inhibiteur des différentes fonctions. Voilà, alors, le GABA, je vous le présente, vous avez 4 carbones, d'où le nom de l'acide, ça c'est la fonction acide, c'est butyrique acide, mais dans cette position ici, sur ce carbone, donc le dernier carbone, nous avons une fonction amine, D'où le nom de ce carbone ici. Ça, c'est celui qui porte la fonction acide. Donc celui-ci, c'est l'alpha, le bêta, le gamma. Voilà, donc l'amine est sur la position, le carbone gamma de l'acide butyrique. Vous avez ici, d'où son nom de gamma-amino-butyrique acide. Comme c'est un peu trop long, en compact, c'est GABA. Voilà, et GABA, ça veut dire ça. Et ça... Ça veut dire qu'on a cette structure. Et cette structure veut dire que toutes les fois que du GABA rentre dans son récepteur, alors à ce moment, il va provoquer une inhibition des réseaux de neurones. Alors, si on prend une métaphore, celui de la voiture, vous avez l'accélérateur, c'est le glutamate, et puis vous avez les freins vraiment qui font pile, presque, c'est le GABA. Alors, maintenant, il suffit de voir un petit peu le récepteur GABA, si vous voulez, puis on va voir les différentes fonctions qui sont rattachées. Alors, peut-être deux mots. Je vous ai parlé de la membrane cellulaire qui constitue nos cellules, voilà, qui donc protège nos cellules. Mais, je vous ai dit que c'était des lipides. Et bien là, vous avez, en quelque sorte, cette membrane lipidique. Et voilà, vous l'avez ici, là. Voilà, deux couches de lipides, comme ceci. Donc c'est la membrane cellulaire, et dans ces lipides, vous avez des protéines. Et parmi ces protéines, il y en a une qui est énorme. C'est un HLM, en quelque sorte, qui recèle les récepteurs du GABA. Alors, c'est ce récepteur du GABA, qui est ici, là, et qui, à ce moment, a une propriété, c'est lorsque du GABA est lié avec ce récepteur, à ce moment, ça provoque l'ouverture d'un canal ionique très particulier, ce sont les ions chlore qui vont pouvoir rentrer, envahir la cellule. Et là, vous avez une figuration de ce chlore qui rentre sauvagement dans le neurone, et à ce moment, ça s'appelle une inhibition, et donc le neurone ne peut plus émettre de signaux électriques, en gros. Hein, c'est peut-être un peu rapide, mais gardez ça quand même. Alors voilà la protéine en question qui a le récepteur GABA. Voilà le pôle récepteur ici. Voilà le récepteur GABA, mais progressivement on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres sites récepteurs. Alors je vous en donne juste quelques-uns, puis je vais vous donner plus d'informations. Alors je cherche d'abord le premier, voilà, c'est la picrotoxine, les barbituriques, les hormones stéroïdiennes, les benzodiazépines viennent loger dans la même protéine avec leur propre récepteur. Donc il y a un lien entre le GABA, la picrotoxine, les barbituriques et les benzodiazépines, c'est-à-dire le valium, et puis on a trouvé l'éthanol. Voilà. Alors, donc bien entendu, ça veut dire que l'éthanol va pouvoir jouer un rôle polyvalent, en jouant tour à tour le rôle de l'éthanol lorsqu'il est en petite quantité, puis ensuite le rôle de benzodiazépine, d'anxiolytique en un mot, puis ensuite de barbiturique, puis ensuite de picrotoxine. Alors ça vous dit peut-être plus grand chose, ben, j'essaye de vous l'expliquer ici. Voilà, en gros, nous avons notre gigantesque protéine qui est ici, le récepteur GABA. Quand vous avez du GABA, ça provoque l'ouverture du canal chlore, et le chlore s'engouffre dans le neurone, qui va provoquer un freinage des activités électriques et métaboliques. Mais, comme on a découvert des sites à barbituriques, on s'est aperçu que les barbituriques jouaient sur le GABA qui joue sur le chlore, et donc on a découvert que les barbituriques rendaient béant le canal chlore, d'où l'inhibition fantastique due aux barbituriques qui peut aller jusqu'à perte de la mémoire, et puis coma, et puis si on a une dose infinitésimale plus forte, la mort. Tout simplement parce qu'il y a une inhibition féroce des centres respiratoires et des centres cardiaques. Donc vous avez plus de respiration, plus de rythme cardiaque, vous mourrez par force. Voilà, ça vous fait toucher du doigt ce que c'est que l'inhibition. Alors l'autre grande surprise dans les années 80, c'est de trouver les sites benzodiazépines. On a vu, hein, ces benzodiazépines font le même travail, c'est-à-dire ils vont jouer sur le GABA qui va jouer sur le chlore, et donc le canal chlore s'en trouve de temps en temps, d'où l'effet anxiolytique. Donc bien, on s'est aperçu qu'il y avait un lien avec les angoisses et le canal chlore, en quelque sorte. Si ce canal chlore s'ouvre, alors à ce moment, les angoisses cèdent, diminuent. Voilà. C'est l'effet des benzodiazépines. Et puis, on s'est aperçu donc que les hormones stéroïdiennes jouaient le même rôle. Et c'est vrai que, on voit surtout chez les femmes, hein, parce que c'est plus facile à distinguer chez les femmes. Il peut y avoir au cours du cycle des variations de l'humeur. On voit des variations au moment de la ménopause. Là, on voit bien que c'est une privation des hormones sexuelles. Et puis, on voit aussi des variations, vous ferez vos enquêtes, au cours de la grossesse. Alors là, c'est manifeste. Chez les hommes, bien sûr, ça joue aussi, mais c'est plus discret, disons. C'est moins facile de comprendre. La picrotoxine, peut-être. Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une toxine, et la toxine en question vous déclenche des convulsions épouvantables au point que les gens se fracassent la tête contre les murs. Voilà. Donc du coup, ça nous a ramené à dire que l'épilepsie était probablement due à une sécrétion de picrotoxines à l'intérieur de notre cerveau, et que par miracle, on a découvert des barbituriques et des benzodiazépines qui empêchaient la picrotoxine d'agir. Donc ces convulsions peuvent être combattues par les antiépileptiques. Bien entendu, si vous rappelez de ce que je vous ai dit précédemment, l'alcool est capable d'entraîner non seulement des comas, mais aussi des convulsions. Et donc du coup, on commence à comprendre comment s'exerce l'action de l'alcool. Voilà. Alors, si on est en dose très modérée, l'éthanol à son récepteur. Donc il va agir ici, il va donc permettre l'ouverture gentille du chlore qui va rentrer, qui va donc amener une certaine euphorie. Il va lutter contre l'angoisse et dire « Oh non, je ne la connais pas cette personne, alors bon, je ne vais pas lui dire bonjour, je ne sais pas quoi. » Bon, là, oh, bon, un peu plus gaillard et donc, bon, ça avance, dit « Bon, voilà, je me présente, machin, gna, gna. Voilà, bon, c'est tout. Ça, avec un verre ou deux, simplement. Vous passez le braquet supérieur. Alors à ce moment, vous êtes complètement euphorique, vous n'avez plus du tout d'angoisse. Hein, deux verres. Benzodiazépine à ce moment, l'alcool. Parce qu'il a saturé son récepteur, mais après, il va saturer celui-ci. Et puis, vous passez à trois verres, ça va commencer à jouer sur les barbituriques, peut-être. En tout cas, à quatre ou cinq, bien sûr. Et là, à ce moment, boum, vous commencez à déconner, et puis à tituber, et puis... Puis boum, vous devenez ivre-mort, vous tombez par terre, vous êtes en coma, quoi, en gros. Et puis quand vous commencez à vous agiter, ben c'est que là, vous avez dépassé la dose et vous êtes venu stimuler le récepteur de la picrotoxine. Probablement. Alors donc, du coup, on va rester modeste. Hein. Tous les jours, vous avez droit, mais un petit peu de bonheur, mais pas outrancièrement, parce qu'autrement, vous ne pourriez plus en profiter, parce qu'après, il y a le Gaillet, Berniquet, Korsakoff, et tout le reste, quoi. Bon, alors, morceau de résistance, bien sûr. Tout de suite, on se pose des questions, mais d'où ça vient, et tout. Donc, bien sûr, il y a du plaisir. Bon, mais comment ça commence? Ben, les psychologues ont l'esprit mal tourné, et disent, ben, on commence par le début. Voilà. Ben, finalement, c'est là. C'est probablement, quand on a un problème avec un psychotrope, et pourquoi pas avec l'alcool, ben c'est peut-être que on a peut-être eu une relation mère-enfant qui serait peut-être à revoir, alors bon, pour charger la mère, hein, bon, c'est son boulot, hein, il n'y a pas de doute, mais peut-être que quelque chose, alors j'essaye de vous expliquer que voilà, il y a plusieurs acceptations possibles. L'enfant, donc, il ne parle pas, donc à ce moment, là, l'auteur l'appelle l'infance, hein, donc, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un sujet qui refuse le sevrage. Voilà, c'est-à-dire, il a le bon sein, le lait bien chaud, bien sucré, bien tout comme il faut, qui lui arrive directement dans le bec. Et pas question de lâcher rien du tout. Donc, sa mère se retire, il dit « Ah, écoute, c'est ta première dent, tu me fais mal, mais bon, rien n'y fait, il refuse. » Voilà, et donc, bien sûr, il veut boire, il veut être nourri, en quelque sorte. Hein. Voilà. Et la mère, elle, en retour, eh ben, elle accepte quand même assez bien d'être bu et de nourrir. Voilà. Alors, bien entendu, dans le développement, il y a quelque chose qui est prévu, parce que nous sommes des mammifères, donc bien sûr, nous têtons notre mère sans aucun problème, pendant quelque temps. Puis à un moment, ben, il faut accepter le sevrage. Alors, j'utilise le même terme, parce que pour l'alcool et pour les autres substances, on verra. Et à ce moment, bien sûr, l'enfant, c'est-à-dire le sujet, là, accepte de ne pas boire, de ne pas être nourri, puis de se servir de ses dents, quoi, en gros, c'est-à-dire accepter les petits pots, quoi, hein, les soupes, les carottes, les, je ne sais pas quoi, les quignons, et tout ce que vous connaissez. Hein. Et dans l'autre cas, la mère, elle, ben, elle accepte de ne pas être bu, quitte à passer pour une mauvaise mère, quoi, hein, ou se sentir pas suffisamment bonne ou je ne sais quoi, et ne pas nourrir, elle va nourrir autrement, bon, mais en tout cas pas dans ce contact du corps à corps, du sein et de la bouche, quoi, en gros. Donc forcément, s'il y a un écart, alors à ce moment, c'est l'acceptation du sevrage, et que donc probablement, alors donc quand on est actif, c'est différent d'être passif, quand on est actif, c'est boire, qui dérivera les pulsions agressives sur l'objet, voilà, c'est-à-dire, bon, on peut mordre, si vous voulez, mais on ne boit pas, quoi, voilà, on n'en tête plus, à un certain âge, on ne tête plus, et c'est ça notre apprentissage d'homme, c'est à un moment, ben non, on n'a pas le sein dans la bouche, il va falloir se démerder autrement, c'est-à-dire accepter de troquer à belles dents, et puis on n'a pas la tétine en permanence, et non, pourquoi? Parce que la bouche doit rester libre pour pouvoir parler, et non pas, je sais pas quoi, là, vous voyez ça toute la journée, hein, dans les transports en commun, c'est invraisemblable, et en plus il y a des bisphénols. Franchement, ah bon. Alors, je sais pas si vous avez vu l'émission, il y a trois jours, mais alors, ces substances-là vont faire une calamité, parce que alors, ça vous donne un sexe, enfin chez les garçons, quoi, j'ai le clitoris, c'est pareil, mais là chez les garçons, c'est cette taille, quoi, hein. Bon, c'est pas possible, quoi, hein, donc il faut arrêter, quoi, hein, avec les biberons, avec les tétines, les machins, et tout le reste, quoi, ça c'est net, hein. Donc, boire, ça va permettre, il va falloir dériver les pulsions agressives sur l'objet, et puis par contre, quand on est passif, ben c'est qu'on veut être nourri, et alors à ce moment, on a complètement renversé la position, au lieu de mordre, éventuellement, même le téton, si vraiment c'est nécessaire, une fois peut-être, pour voir ce que ça donne, c'est une mormie, ou bien être agressif pour détruire une structure comme une carotte ou un quillon ou tout ce que vous voulez, eh bien là, quand on est passé, ben, c'est vouloir être nourri à tout prix, et ça veut dire renversement de la pulsion, et l'agressivité, elle est dirigée contre le sujet lui-même, et donc c'est la position masochiste. Et donc forcément, quand on transpose ça à ces psychotropes, ben ça nous amène bien sûr aux addictions. On commence à explorer, c'est-à-dire finalement de prendre une substance qui va venir remplacer le bon sein fantasmé, et puis il n'y en a jamais assez, donc on en prend plus, et puis à ce moment on est en dépression, et donc du coup il va falloir se remonter les bretelles en prenant plus, mais en prenant plus on va encore rebaisser le niveau de la mer, si j'ose dire, il va falloir remonter avec plus de doses, voilà, c'est la cascade, et donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas s'en sortir tout seul en tout cas, hein. Ça, il faut faire une thérapie, et les thérapies sont difficiles, hein, je peux vous dire, en fait. Bon, mais puisqu'on est dans la relation mère-enfant qu'on peut explorer sommairement, ben, là ce qui est vraiment épouvantable, c'est de voir des femmes enceintes boire de l'alcool. Voilà. Et là, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on sait que ça donne des ravages, tout simplement, parce que quand on prend le dosage qu'un fœtus reçoit avec un verre d'alcool, bien entendu, lui, il prend une barrique, en gros, toute chose proportionnelle, hein. Et donc, du coup, bah, à la naissance, on voit au premier coup d'œil, puis à la puberté, alors là, vous avez une illustration d'un certain nombre de critères qui se voient au premier coup d'œil, tout un tas d'anomalies, et ça, c'est ce qui est visible, alors ça, c'est rien, quoi, hein. Mais par contre, dans le cerveau, alors là, c'est bouillitch. Alors, bien entendu, bon, c'est juste pour finir, ça, hein, c'est qu'heureusement, ils sont plus malins, et c'est les Bordelais, ben, ils se lancent dans la vinothérapie, et donc, alors, bien entendu, je trouve que c'est vraiment ça, alors peut-être pas la vinothérapie, mais l'œnophilie, l'œnologie, est une façon de lutter contre l'alcoolisme. Il y a très peu d'alcooliques chez les professionnels du vin, parce qu'ils savent boire, c'est-à-dire ils savent cracher, en gros. Voilà, c'est-à-dire, quand vous avez un problème avec l'alcool, voilà, il suffit de dire, ben voilà, il faut que j'arrive à en mettre un peu en bouche, et puis que j'accepte de cracher. Et quand vous dégustez des vins, ben vous êtes obligé de cracher, sinon alors vous êtes fusillé dès la première dégustation. Donc vous crachez, il y a juste celui que vous trouvez le meilleur, alors ça vous pousse à déterminer lequel, alors celui-là vous autorisez à cracher à l'intérieur. Alors, je vous donne juste une dernière réflexion. J'étais à Cognac, chez le plus grand fabricant de cognac, et j'ai beaucoup sympathisé avec le maître de chai. Et à un moment, il dit, mais alors, qu'est-ce qui fait que vos dégustateurs sont si efficaces? Et ben, il réfléchit un petit instant et puis il me dit, ben voilà, je crois qu'il n'y a qu'une règle. La règle, c'est que je connais aucun bon dégustateur qui ne soit pas heureux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une certaine joie de vivre et qui, donc, ne se laisse pas avoir par les substances et qui les domine. Et puis, quand il a estimé qu'il avait assez, il recrache. Et puis, voilà, c'est pas un problème. Tandis que celui qui devient dépendant, eh ben, il est malheureux comme une pierre. Et donc, du coup, il s'occupe plus de la qualité du breuvage, il s'occupe de la quantité. Là, c'est foutu, quoi. Donc, il faut rester qualitatif. Bon, voilà, j'arrête peut-être de vous montrer des images et puis ben, j'ouvre la discussion, si vous voulez. Merci.